Sur la 405, la circulation était si dense que le taxi ne le lâcha pas au port de San Pedro avant 2 heures. La voiture n'étant pas climatisée, il avait attrapé un léger mal de tête en respirant les fumées d'échappement sur l'autoroute, sans parler de l'odeur corporelle du chauffeur. Enfin remonté à bord, il vérifia son répondeur et découvrit qu'en guise de seul et unique message, quelqu'un avait raccroché. Il se sentait déphasé, n'ayant pas soumis son corps à des efforts physiques aussi intenses depuis longtemps. Il avait les muscles des jambes endoloris et son dos lui faisait mal. Il descendit à la salle de bain pour prendre sa température, mais non, il n'en avait pas. Côté pouls et tension artérielle, tout allait bien aussi. Il nota les renseignements sur le tableau, gagna sa chambre, se déshabilla et se glissa dans son lit défait. Malgré sa fatigue, il ne put dormir et resta étendu sur sa couche, les yeux grands ouverts. Il ne cessait de penser aux idées qui lui étaient venues et aux images de la bande vidéo. Au bout d'une heure, il cessa de se raconter des histoires, se releva, gagna le salon, sortit son calepin de la poche de sa veste posée sur une chaise et parcourut ses notes. Rien de saisissant, mais il eut le sentiment qu'il avait enfin commencé à répertorier les faits marquants de son enquête. Sur une nouvelle page, il nota quelques idées qu'il avait encore eues sur la vidéo et plusieurs questions qu'il voulait être sûr de poser à Jay Winston le lendemain. À supposer qu'Arango et Walters aient fait le lien entre ces deux affaires, il entendait lui demander si à ses yeux à elle c'était du solide et surtout si les $300 que l'agresseur avait pris sortaient de la poche de James Cordell ou du distributeur. Sentant qu'il avait faim, il reposa son carnet. Il se releva, se fit frire 3 blancs d'œufs dans une poêle, y ajouta un peu de tabasco et de salsa, et se confectionna un sandwich au pain blanc. Il en mangea 2 bouchées et rajouta du tabasco. Il nettoya la cambuse et sentit que la fatigue revenait pour de bon cette fois. Il s'endormirait, c'était sûr. Il passa sous la douche, reprit sa température et avala son lot de médicaments. En se regardant dans la glace, il vit qu'il avait encore une barbe de 2 jours, bien qu'il se soit rasé le matin même. C'était là un des effets secondaires d'un des médicaments. S'il enrayait les menaces de rejet du greffon, le prednisone faisait aussi pousser les cheveux et la barbe. Il rit en songeant qu'il s'était trompé de comparaison en parlant avec Bonnie Fox. De fait, il ressemblait moins à Frankenstein qu'à un loup-garou. Il s'était tout bêtement trompé de monstre. Il alla se coucher. Il rêva en noir et blanc, comme d'habitude maintenant, alors que ça lui arrivait rarement avant l'opération. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Lorsqu'il lui en avait parlé, Bonnie Fox s'était contenté de hausser les épaules. Il était au supermarché et entrait dans la vidéo qu'Arango et Walters lui avaient montrée. Debout au comptoir, il souriait à Kyung Wong Kong. L'épicier lui envoyait un sourire méchant et disait quelque chose. « Quoi ? Vous ne méritez pas ça. » Il regardait le comptoir où il avait posé son achat, mais sentait aussitôt quelque chose de glacé sur sa tempe. Il se retournait d'un bond et se retrouvait nez à nez avec l'homme au passe-montagne. Celui-ci tenait une arme à la main. Et comme on peut être sûr et certain de certaines choses quand on rêve, il savait alors que le voleur souriait derrière son masque. Puis l'homme abaissait son arme et faisait feu, en plein dans le mille. La balle perforait le cœur de McCaleb comme si l'ancien du FBI n'était qu'une cible en papier. Mais l'impact était si fort qu'il reculait d'un pas et se mettait à tomber en arrière. Aucune douleur, juste l'impression d'un soulagement immense. Il regardait le tueur en tombant au ralenti et reconnaissait enfin les yeux qui brillaient dans les trous du passe-montagne. C'étaient les siens. Soudain, ses paupières clignaient et il ne cessait plus de tomber.